Quand Jbokhu il a donné la mitzvah de mettre les tzitzit, donc sur les vêtements, après c'est marqué Ve'alachem les tzitzit. Tzitzit, ça veut dire quelque chose qui se voit, qui apparaît, un panneau indicateur, c'est fait pour les yeux. Uritem oto, vous allez le voir. Uzchartem et kol mitzvot Hashem, vous allez vous rappeler de tous les commandements. Va'asitem otam, vous les accomplirez. Après c'est marqué Ve'lo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem, et vous ne vous détournerez pas après votre cœur et après vos yeux. Asheratem zoni macharem, après lesquels vous, si on traduit littéralement, vous prostituez. Leman tiskuru, afin que vous vous rappeliez. Veasitem et kol mitzvotai, et que vous accomplissiez tous mes commandements. Veitem kedoshim lelokechem, et que vous soyez sanctifiés devant Hachem. Voilà donc comment la paracha elle parle de cette mitzvah de tzitzit. Avec au centre, à part le fait que cette mitzvah elle est là pour nous rappeler l'accomplissement des mitzvot, au centre de cette mitzvah, on trouve le pasuk Velo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem, vous ne vous détournerez pas après vos yeux, après votre cœur, qui est, je pense aujourd'hui, un sujet d'actualité, vu l'été qui pointe. Donc j'ai pensé que c'est le moment ou jamais d'allumer le tzitzit fluorescent du mardi soir. D'accord ? Donc c'est marqué comme ça. Velo tatoru acharei levavchem v'acharei nechem. Alors, la Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est acharei levavchem? Acharei, c'est minute. On parle de quoi? Minute. Minute, c'est l'hérésie. Le fait même que quelqu'un, il va se rebeller contre Hachem. On s'est marqué, vous le tatouez acharei levavchem, vous ne vous détournerez pas après votre cœur. Après, c'est marqué acharei nechem, après vos yeux. C'est irur avera. C'est la pensée de la faute. Alors là, c'est bizarre, parce que quand on va expliquer que le fait même que quelqu'un va se détourner après son cœur, ça puisse parler de l'hérésie, on ne voit pas tellement le rapport. Parce que quand on parle d'hérésie, de quelqu'un qui va remettre en cause l'existence d'Hachem, ou la vérité de la Torah, ou le fait que les commandements ils sont vraiment obligatoires, a priori c'est un problème intellectuel. Pourquoi est-ce que la Torah, à ce sujet-là, elle va dire acharei levavchem, après votre cœur? Quel rapport avec le cœur? Deuxièmement, le Rashi, sur place, il dit comme ça. Velo tatoru acharei levavchem, vous ne vous détournerez pas derrière vos cœurs. Rashi dit, ce langage de tatoru, tatour, c'est bizarre. Il dit, kemo mitur aret, comme tour aret, c'est l'exploration de la terre. Comme on a parlé pour les explorateurs, juste après, il y a la paracha de Tzitzit, qui emploie encore ce langage de l'eau tatoru. Tatour, ça veut dire visiter, explorer. Donc, il dit comme ça, Alev verenaim emmeraglim lagouf. Le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. C'est comme si le corps, c'est une grosse machine aveugle. Alors, elle n'a pas de capteur. Alors, les capteurs, c'est quoi? C'est le cœur et les yeux. Regardez ce qui est marqué. Ou mesarserim lo et averot. Et elles lui servent d'intermédiaire pour les fautes. C'est-à-dire que le cœur et les yeux servent d'intermédiaire, de présentoir, de capteur, pour proposer au corps de fauter. Alors, et comme ça, il résume dans Rashi, « Aïn roé, l'œil voit, alef romed, le cœur convoite, ve agouf osé et averot, et le corps fait les fautes. » C'est facile. Juste un petit problème, c'est qu'on voit que Rashi, il n'a pas suivi l'ordre du pasouk. Dans le pasouk, c'est marqué « Vous ne vous détournerez pas après vos cœurs, après votre cœur et après vos yeux. » Lui, Rachid, dit « L'œil voit, le cœur convoite. » Donc la Torah, elle aurait dû dire « Ne vous détournez pas après vos yeux et après votre cœur. » Parce que d'abord, tu vois, après, ça t'intéresse. Pourquoi la Torah, elle a dit « D'abord, ça t'intéresse, après, tu vois. » Il dit « Mais si j'ai pas vu, ça peut pas m'intéresser. » C'est bizarre, le pasouk, comment il est fait. Oui, la Torah dit « L'autre Torah, acharei levavchem, ve'acharei nechem. » On le dit deux fois par jour, c'est important. Il faut se poser la question. D'accord? Vous ne vous détournerez pas après votre cœur. Quel cœur il est? Le cœur, c'est un muscle. Vous avez déjà vu un cœur? Il se détourner après son cœur. Et le cœur, il va entraîner les yeux. Ben non, les yeux, ils entraînent le cœur. Je vois quelque chose de bon. Je regarde, ça m'excite. Je dis pas, je suis excité, c'est bon. C'est bizarre. Bon, on va essayer de voir comment ça marche et quels sont surtout le mode de gestion de ce type de curiosité mal placé. Il dit le Midrash, Aïnaim Rot, les yeux voient, Ve'alev Me'ar Er Acharia, Et le cœur réfléchit, pense ensuite, après les yeux. Ça veut dire quoi? C'est que ça, on parle de dans le sens de la réalité des choses. Bon, faut quand même être réaliste. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un voit quelque chose, il le voit. Maintenant, ça s'introduit dans sa tête. Ça fait appel à une certaine sensibilité, une certaine culture qui lui dit « excite-toi », il s'excite. C'est comme ça qu'on pense, nous. Donc, Rachid a raison de faire passer les yeux avant le cœur. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit que dans le pasouk, c'est écrit le contraire. Alors, dans le Sifri, un autre midrash encore, mais ça, c'est un midrash de Halakha, normalement, il dit la chose suivante. Magid sha'enaim olchot achar alev ou alev achar enaim. Il demande le Sifri, est-ce qu'il faut penser que les yeux vont d'après le cœur ou que le cœur va d'après les yeux? Comment ça marche? C'est comme la poule et l'œuf. Mais c'est l'histoire. Ouais. Mais là, c'est plus compliqué. Est-ce que quelqu'un y voit ce qu'il désire ou est-ce que quelqu'un y désire ce qu'il voit? Alors, on savait déjà que l'œil, il a une capacité, en associant le logiciel d'imagination, de fabriquer une image. C'est-à-dire que quelqu'un, il voit vraiment ce qu'il a envie de voir. Maintenant, dans quelle proportion aussi le fantasme, il intervient dans le regard? C'est énorme. C'est pratiquement illimité. D'accord? Donc déjà, tu vois que l'intervention du cœur à l'intérieur du regard, elle est forte. Maintenant, le contraire aussi, on ne peut pas le nier. Que quelqu'un, il voit quelque chose, il réagit. S'il ne le voit pas, il ne réagit pas. D'accord? Imaginez un gâteau transparent, invisible. Ça va pas réveiller les instincts. Comment c'est possible? D'accord? Même si le gâteau, il a envie du jus. Donc, si quelqu'un... Jupe de crème. Comment on va faire? Il dit le Sifri. Amarta, vechilo yesh suma, shose kolato avot sheba olam. Il dit, le Sifri dit, est-ce qu'on n'a jamais vu un aveugle qui fait toutes les bêtises du monde, toutes les envies du monde? C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il n'a pas d'envie. Donc tu vois bien qu'un type qui n'a pas les yeux, il peut quand même avoir des passions. Amat talmud loma, velo tatouach revafrem. Alors pourquoi le pasouk qu'il a dit, vous ne vous détendrez pas après vos cœurs? Magid sha'enaim olchot achar alev. Ça vient te dire que les yeux vont d'après le cœur. Donc le Sifri, il pense que le cœur d'abord et les yeux ensuite. Le Rashi amène dans un autre midrash que les yeux d'abord, le cœur après. Alors, comment on va faire? Alors on va essayer de comprendre. Il dit le Rav Dessler, une chose très très importante. Il dit en vérité, parmi les caractéristiques de l'homme, il y a la curiosité. Je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé. Qu'est-ce que c'est la curiosité? D'où ça vient? Pourquoi c'est tellement puissant? Pourquoi c'est illimité? Regardez un enfant, il est curieux. D'accord? Si on pensait que la curiosité, c'est un phénomène culturel, on ne comprend pas pourquoi l'enfant, il est curieux. Et puis, on est curieux toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est fort comme ça? Par exemple, essayez d'empêcher un curieux de voir quelque chose. Il va devenir cinglé. Tu prends une lettre, tu l'ouvres comme ça. Bon, dis-moi si. Ou alors le mieux, ce que vous faites, si vous voulez vous quereller avec un ami, vous commencez à lui dire quelque chose, et puis après vous dites non, je ne peux pas te le dire. Vous avez éveillé la curiosité. C'est comme si vous avez rendu les jambes à un amputé pendant 10 minutes. Il devient fou. Il dit non, tu me dis tout, tu me dis rien. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me mets l'eau à la bouche. De toute façon, ça ne te concerne pas, c'est pas ta vie. Après, tu peux lui donner toutes les justificatives du monde. Il est malade. D'accord? Donc, il y a trois catégories de gens. Il y a les gens qui dorment. Mais éveillés. Hein. Oui? Il y a les gens qui se retiennent. Et il y a les gens qui ont le manque de pudeur de dire, j'ai envie de savoir, voilà, j'ai envie de savoir, voilà. Voilà, curieux à découvert. Il y a des gens comme ça. J'aime bien savoir, j'aime bien fouiller. La vie des autres m'intéresse. Souvent, de manière inversement proportionnelle à la leur, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre problème. Ici, c'est marqué, la curiosité, elle est infinie. D'où elle vient? D'autre côté, c'est vrai qu'on ne peut pas se passer de cette curiosité. Quelqu'un qui n'a pas de curiosité ne peut pas évoluer. Ne peut pas réfléchir. Parce que l'orientation de la réflexion, elle vient de la curiosité. C'est à la place de l'intérêt dans la réflexion, c'est ce qui oriente les choses. Pourquoi est-ce que je regarde ça plutôt que ça? Plutôt que je m'intéresse à ça plutôt que ça? Nous-mêmes, on joue avec l'intérêt des autres. On joue avec la curiosité des autres. On fonctionne avec le fantasme de l'autre. Le 90% du relationnel qu'on entretient avec l'autre, c'est lié sur le fantasme. C'est très peu lié à la réalité. Parce qu'on joue toujours un certain jeu. On laisse toujours une certaine partie cachée. On laisse toujours croire des choses. On est très content quand l'autre il a des impressions qu'on n'a pas créé, parce que ça nous a évité d'avoir les créés. On fait une vente, alors on fait rêver le client, on le fait baver. On ne lui donne pas tout de suite les choses. Il faut vraiment qu'il ait l'impression que c'est l'appareil qui va lui sauver la vie. D'accord ? On fait toujours appel au rêve de l'autre. Donc, moi, je fais appel au rêve de l'autre. D'accord ? L'autre aussi, il fait appel à son rêve à lui. Parce qu'au fond, ça l'intéresse de rêver. Toujours, je me suis demandé si un client, il est plus intéressé à rêver ou à acheter. Peut-être que l'achat, c'est la fin du rêve. Et le vice, c'est de faire durer le rêve. C'est pas évident. Hein ? Réfléchissez, vous verrez que en force de vente, c'est des grosses questions. Alors, si c'est comme ça, ce principe de la curiosité, qui est ce qu'on appelle un yetzer, mais nécessaire, toutes les tendances que Dieu a mises dans l'homme, elles sont nécessaires. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Oui ? Alors, à ce moment-là, ça va dépendre. Si c'est entre les mains du yetzer Atov, c'est une bombe atomique. Si entre les mains du yetzer Hara, c'est le massacre. On va voir. Regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Kama paramim, combien de fois, nishma bede anam omrim, on entend des gens qui disent, nit om, l'école a pachot pa amacham, pa amachat bechayenu, et ta'amo shedze. Oui, combien de gens les gens vont vous dire, mais Dieu, il a créé tellement de choses, il y a tellement de choses bonnes. Au moins une fois dans ta vie, tu goûtes au moins. Au moins goûte. Oui, t'es venu au monde. Il y a des milliards de choses. Au moins goûte. T'as pas goûté les coquilles Saint-Jacques depuis que t'es né. Une fois. Oui, rien que pour goûter. Comment un type, il peut mourir sans avoir vu l'Himalaya? Oui, il peut. Ouais. Non, c'est pas possible. Il faut goûter. Il dit, Véhi, regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Véhi, mais fached ou sheloy pater mina olam blitaima evelazo. Il dit, il a peur de mourir. Sans avoir goûté cette vanité-là, cette lourdeur, de rien du tout. Il dit, je sais pas, quel goût ça peut avoir. Regardez cette vache, elle broute depuis des années, elle a trouvé le goût, l'essence du goût. Parce que tu vois bien, elle cherche pas autre chose. Tu vas manger de l'herbe. C'est bizarre. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il faut goûter, il faut aller, il faut avoir vu. Tu vois, j'ai fait 8 heures de vol, je suis arrivé, il y avait un bruit assourdissant. Assourdissant, il y avait de l'eau partout. J'ai vu les chutes du Niagara. Voilà, ça. T'es content. 4 mois de salaire? 4 mois de salaire. T'as vu. T'es un peu plus sourd qu'avant? Je suis un peu plus sourd qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit, regardez bien. A sacranout chevo, la curiosité qu'il contient, d'ocheket auto, elle le pousse, ou machvé, et inyan ateima achat bechayav, la da'at ata'amaou, qui est d'avoir gadol ou moucha chesso. La curiosité, elle va faire que le principe en soi de se dire, c'est une chose que je vais goûter une fois dans ma vie, il va tellement focaliser, ça va donner tellement une grande valeur à ça, que d'un seul coup, ça va devenir obligatoire. Il faut que je le fasse. Il s'est mis ça dans la tête. Mais, il dit le Rav Dessler, le départ de toute l'histoire, ça vient de cette curiosité. Pourquoi on va focaliser sur une chose qui n'a aucun intérêt? Comment ça marche? Pourquoi ça peut rendre malade quelqu'un? Alors oui, c'est de comprendre d'où elle vient cette attirance. Pourquoi elle est tellement développée? Pourquoi elle fait tellement de ravages? Et quel intérêt Hachem il a eu à mettre un truc pareil dans le monde? Pourquoi ça sert? Alors là, il faut remonter très très loin. Jusqu'à la faute de Adam. C'est marqué dans le Ramban. Que Adam et Chava, ils étaient, comme c'est marqué dans le Passouk, ils étaient nus. Tout le monde sait, ils étaient nus dans le Gan Eden. Au paradis, ils étaient nus tous les deux. Et le Ramban, il dit que quelle est la différence entre avant la faute et après la faute? C'est qu'avant la faute, quand Adam, il regardait sa femme, c'est comme s'il regardait les paumes, la paume de la main. C'est-à-dire quand quelqu'un regarde la paume d'une main, a priori, ça ne l'excite pas. Vraiment, le type... D'accord? La paume d'une main, ça n'excite personne. Il dit le Ramban, pour Adam, c'était comme si sa femme, elle était couverte avec des paumes de main. Ça ne fait rien. Et après, c'est marqué, quand ils ont fauté, c'est marqué, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Veyadou qui a romim em. Ils ont su qu'ils étaient nus. Alors, il demande le Ramban, mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant la faute et après la faute, que d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus? Il dit ça, c'est le principe de la différence entre la nature des regards. Vous savez, c'est très bizarre, ça. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Pourquoi on sent un regard? Vous êtes comme ça, vous sentez un regard derrière vous. Vous n'êtes pas demandé pourquoi? Je sens qu'on me regarde. D'accord? Ou le contraire, vous sentez la nature d'un regard. Et un regard qui est plutôt... Ou plutôt... C'est bizarre. Quelqu'un regarde sa cousine, c'est pas la même chose que sa copine. D'ailleurs, on dit en français, maté. C'est pas pareil. Quelqu'un veut dire, je mate un poteau. Non. Si vous comprenez, l'autre il va dire, mais je parle pas de l'un, je parle de l'autre. Ah oui, Oui. Comment c'est possible? Il dit, la nature du regard, elle est différente. C'est bizarre, elle peut même changer en deux secondes. Comme j'ai expliqué plusieurs fois déjà ce qu'on appelle le syndrome du virage de la quarantaine, qu'un type, d'un seul coup, il se rend compte que sa secrétaire a des jambes. Ça fait 20 ans qu'il travaille avec elle, il s'est jamais rendu compte. Et d'un seul coup, pour lui, elle avait des mains. Maintenant, elle a des jambes. Comme ça, paf! C'est rien, c'est un regard. Tous les matins, ça fait 20 ans qu'il vient, tous les matins, à 8h du matin, il ne s'est jamais rendu compte qu'elle avait des jambes. Et maintenant, ça lui est monté dans la tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature du regard, elle change complètement le regard. Maintenant, là où c'est très bizarre, c'est que la personne elle-même, elle s'en rend compte tout de suite, celle qui regarde. C'est normal. Mais là où ça devient très vicieux, c'est que même la personne qui est regardée s'en rend compte tout de suite. Comment c'est possible? Vous avez jamais demandé? Il dit, bon, c'est un phénomène naturel, depuis toujours dans les pâturages, on a toujours vu. Non, je vous demande, oui, pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre. Ils disent, ils mettent deux habits du regard. Il est bizarre, ce langage. Une radio. Comment c'est possible? Ici, c'est marqué ici. Il y avait le regard d'avant la faute et le regard d'après la faute. Le regard d'après la faute, c'est ce regard-là qui contient le vice. Le regard d'avant la faute, il n'y a pas de vice. Alors, quelle différence entre avant la faute et après la faute? C'était simple. C'est marqué que quand, avant que Adam Arishon faute, il avait devant lui la proposition du bien et du mal, mais c'était extérieur. Il avait le mal qui était là, et le bien qui était là. Et on lui proposait, tu veux ou tu veux pas. Mais lui, à l'intérieur, il était parvé. Propre. Neutre. Dit le Ramban, à partir du moment où il a fauté, alors c'est ce qu'on appelle le principe de la zoéma, c'est l'impureté qui est rentrée à l'intérieur de lui. Alors cette impureté-là, elle a donné à l'essence même de son être, et donc de sa volonté, et donc de son regard, une certaine nature. Et cette nature-là, c'est la nature de la faute. C'est pour ça que depuis que Adam Arishon il a fauté, les choses qui sont interdites, ou les choses qui sont cachées, sont plus attirantes que les choses qui ne sont pas cachées. Parce que Adam Arishon, pour lui, le mal, c'était extérieur. Lui, à l'intérieur de lui, ça ne lui faisait rien. On lui disait, qu'est-ce que t'en penses? Il disait, oui, bon, peut-être. Il n'y avait pas l'impulsion intérieure. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, il est divisé en trois parties. Parce que la Gemara, elle dit, ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou à Malacha Mavet. La Gemara dans Baba Batra, vous pourrez les vérifier ce soir. Elle dit, il y a trois éléments. Le Satan, le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant à l'intérieur. Le Satan, c'est le mauvais penchant à l'extérieur. Et le Malacha Mavet, c'est l'ange de la mort, c'est la fin. Maintenant, les trois éléments, c'est un seul être, mais qui se subdivise en trois rôles distincts. L'impulsion de la faute, intérieure, c'est le Yetzara. La proposition de la faute, extérieure, c'est le Yetzara. La nature du regard, c'est le Yetzara. Donc c'est automatiquement lié à la faute. Parce que jamais le Yetzer Hara, il va t'intéresser à quelque chose qui n'est pas lié à la faute. Il va te laisser tranquille. Si tu visites l'usine Yoplait, oui, et tu regardes des grands bacs de yaourt, de 8000 tonnes de yaourt, ça ne te fait rien. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il sait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc il te laisse tranquille. D'accord? Voilà. Mais si tu vas visiter les usines Triomphe. Hein? Les usines Triomphe. Les voitures Triomphe. Ah, Damleha. Eh oui, c'est marrant, ça a plus réagi de ce côté que de ce côté.
Alors, ça veut dire que quelqu'un il arrive à comprendre que le regard qu'on va avoir sur les choses, il va dépendre de quelque chose. Alors, il explique, le Rav Dessler, il faut remonter à l'origine du problème. Le fait même que la faute, elle a été accomplie, et que maintenant, le Yetzer Hara, il n'est plus à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, il va donner une certaine connotation au regard. Cette connotation du regard, elle est la connotation qui est liée à l'interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait même que quelque chose soit interdit, que quelque chose soit caché, que quelque chose soit fermé, que quelque chose soit réservé, ça devient plus attirant que quelque chose de permis. Alors, les psychologues, ils se cassent la tête le jour, la nuit, les psychiatres, pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, on rêve de choses, ils se demandent. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le fantasme, il intervient dans la sexualité. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Ils ont remarqué, c'est comme ça. Mais la Torah t'explique. C'est comme une personne qui est à moitié déshabillée, elle est plus attirante qu'une personne qui est complètement déshabillée. Pourquoi? Parce que la face cachée des choses, elle laisse une place au débordement imaginatif. Alors que la découverte des choses, elle limite l'imagination. Donc ça veut dire, attention c'est grave ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que c'est pas ce que tu vois qui est excitant, c'est ce que tu vois pas. Vous m'entendez là? C'est ce que tu vois pas. Parce que ce que tu vois pas, ça laisse libre ton imagination. Alors que ce que tu vois, ça délimite ton imagination. Alors il y a un truc incroyable. La limite elle est là. Ce qui est avant la limite, c'est frustrant. Ce qui est avant, après la limite, c'est attirant. Quand tu vois la taille de quelque chose, tu dis bon. Quand tu vois pas la taille, tu dis sûrement que ça doit être... C'est comme ça. Ouais, on te dit l'Amazonie. Pour toi, l'Amazonie, c'est quelque chose de... Ouais, mais si on te dit le jardin de ton cousin, pas besoin de sous-bois, tu dis... Pourquoi? Parce que tu vois le bout. Mais si je te dis le jardin de ton cousin... À Guadalajara. Il va aux toilettes en hélicoptère. Tu t'imagines le type, la baraque qu'il a, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi? L'inconnu, ça laisse l'imagination libre. Donc, plus c'est caché, plus c'est attirant. Mais d'où vient ce principe du caché attirant? Il vient de la faute de Adam. Parce qu'en créant la faute, il a goûté à l'interdit, et il a donné la nature de l'interdit au regard, et surtout à l'essence de l'être. Donc à ce moment-là, il devient attiré par les choses qui ne lui sont pas permises. Attention, c'est très grave ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que, avant de se demander dans quelle mesure est-ce que le regard est dangereux, il faut se demander dans quelle mesure est-ce que l'imagination est dangereuse. Parce que maintenant, on ne parle plus de ce qu'on voit, on parle de ce qu'on rêve. Et dans quelle mesure est-ce que le relationnel qu'on entretient avec les autres, comme on l'a dit, au niveau de la vente, au niveau de la communication, il est basé sur une grande part de fantasmes. Vous comprenez? Parce que moi, je fais des appels d'offres à quelqu'un. Mais dès que je le vois rêver, j'ai un grand yetzara de le laisser rêver. Je pourrais lui dire, non, excuse-moi, il y a erreur, je ne suis pas du tout la personne que tu crois. Oh, pourquoi? Laisse-le rêver. C'est gratuit. C'est mauvais. Parce que qui dit illusion dit des illusions. D'accord? Je l'ai déjà dit ça, vous le savez. Donc, ici, pareil. Dit la nature de la faute. En introduisant la notion de l'interdit à l'intérieur de l'homme, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais maintenant, on est obligé de définir le principe même de l'interdit. Oui? À partir du moment où la notion de la faute, elle est rentrée à l'intérieur de l'homme et qu'elle n'est pas restée une proposition extérieure, donc le Yetzara qui était seulement extérieur, il est devenu aussi intérieur. Donc, à l'origine de l'impulsion de la faute, il y a aussi l'intervention du Yetzara. Donc maintenant, quelqu'un à l'intérieur de lui-même, il contient l'impulsion. Et cette impulsion-là, elle donne une nature. Et la nature, c'est la nature de l'interdit. Ça veut dire que ce qui donne le goût aux choses, c'est l'interdit qui est à l'intérieur. Et le développement du sentiment de conquête de l'interdit s'appelle l'excitation. Il faut arriver à comprendre. Le goût des choses, le goût, c'est l'interdit. Par exemple, souvent, les gens ils te disent « Oui, mais le camembert t'arrête, il n'a pas le même goût. » C'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas le même goût. Parce qu'il a le goût de l'interdit. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme les gens ils m'ont dit « Ouais, mais le vin cuit, moi j'ai parlé avec des grands des grands spécialistes, ils m'ont dit vraiment, si le type il a des années, il peut savoir si un vin il est cuit au goût. Alors le type il te dit, ah mais il est cuit, il est foutu. De qui on parle? Ah, de l'autre côté, c'est vrai que c'est différent. Oui, mais c'est pas physique. C'est dans la tête. C'est quel goût? C'est le goût de la Havera. La Havera, c'est une épice très spéciale. Qui n'est pas contenue dans le cachère. Ce qui est embêtant. Ça dénature un peu. Et c'est le même produit. Vous savez, les gens disent, mais c'est la même chose, il a dû se rajouter une étiquette, il a mis un tampon. En vérité, bon, il l'a remplacé. Il a mis peut-être de l'engrais. Comment ça s'appelle? De la présure. Il a mis de la présure chimique à la place de mettre de l'estomac de chien, je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, on va pas exagérer. Bon. Du sang de mouche, disons. Bon, alors. Alors, non, il ne faut pas avoir peur. Tant que ce n'est pas des mouches transgéniques. Alors, donc. Alors là, ça devient très intéressant. Ça veut dire que nous sommes attirés par des choses que nous ne voyons pas. Le fait même que notre liberté soit rejetée, ça fait que ça nous excite. De la même manière que quand tu empêches quelque chose, quand tu empêches quelqu'un de faire quelque chose, ça lui donne envie de le faire. Maintenant, ça ne prouve pas pour autant que la chose est bonne. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que moi, j'ai réussi à attiser ton intérêt que toi, tu t'accroches, mais en soi, peut-être c'est rien. Une fois, j'ai eu un type comme ça au téléphone. Je dis, mais pourquoi tu lui cours après? Il me dit, je sais pas, elle me résiste. Je dis, mais la peau, c'est tranquille. Pourtant, il pense vraiment qu'il n'a rien à voir avec elle. Mais comme ça, le fait même que c'est un défi. Un défi, vous vous rendez compte? Il y en a qui écrivent défi de ZLES. Toute la vie, c'est une série de défis. C'est aussi comme ça que les psychiatres ils expliquent le syndrome de Don Juan. Vous connaissez le syndrome de Don Juan? Très intéressant, le syndrome de Don Juan. Le syndrome de Don Juan, c'est toujours l'attirance vers une femme mariée, jamais une femme libre. Incroyable. Hein? Parce que la femme mariée, elle est encore plus interdite. Donc elle est encore plus enfermée. Donc elle est encore plus cachée. Donc elle est encore plus attirante. Incroyable. Va expliquer ça à un adultérien précoce. Tu comprends pas? Où c'est marqué? Freud. Non, Freud n'est pas précoce, Freud. Il est très tardif. Regardez, c'est marqué dans la Gemara. 3500 ans. Allez, réveillez-vous, les enfants. Regardez ce qui est marqué ici. Bon, je ne vais pas vous lire tous les mots, c'est trop long. La Gemara raconte, un jour, il y a un homme, il a attrapé une maladie du cœur. Une maladie du cœur. Il y avait un blocage comme ça. Oh, dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait avec une dame. Alors les médecins, ils ont dit, s'il va pas avec elle, il va mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette maladie. Mais aujourd'hui, c'est moins cardiaque. C'est plus proche de l'estomac. Donc, regardez ce qui est marqué. Amrou Chachamim. Donc, ils sont venus devant les sages. Ils ont dit, voilà, cet homme-là, il veut aller avec cette femme-là. Et s'il va pas avec elle, les médecins disent, il va mourir. Et lui, il est là. Il est là. Alors, les médecins, ils ont demandé au Chachamim, aux sages, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on va dire, eh ben, c'est facile. Hein, une vie. Il faut sauver une vie. On va lui demander, peut-être qu'elle veut sacrifier. Peut-être qu'elle a une grande âme et une petite tête. Regardez ce qui est marqué. Ils ont demandé au Chachamim, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la halakha? Regardez les Chachamim, comment ils ont un langage clair. Yamut ve altivarlo. Qui crève? Bah c'est marqué, hein? Bon, je vous traduis, disons, en langage plus. Ouais. Qu'il meure. Et qu'elle ne lui soit pas, je ne dis pas offerte, parce que quand même, c'est un peu honteux. D'accord. C'est bizarre, hein? Vous voyez les sages, comment ils sont? En France, hein. Il n'y a pas comme la clarté. Alors, les médecins, ils ont dit, bon, alors, t'as un mode les falavaruna, au moins qu'elle se tienne nue devant lui, au moins ça. Non, c'est une guémara, hein. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Khamim? Bis. Alors ils ont dit, bon, alors au moins, t'es sa père, il m'a mis à courir à Guéder, au moins qu'il parle avec elle, de derrière une barrière. L'autre, il est en train de mourir, hein. Il est pas vraiment dangereux, comme tu dis. Bon,
C'est un mourant, il est sur un lit mourant, avec des tubes partout. Dieu. Au moins qu'il parle avec elle derrière une barrière. Réponse des Chachamim. N'hésitez pas, ça défoule. Alors, finalement, la Gemara ne le dit pas, mais certainement qu'il en est mort. Hein, alors la Gemara, elle demande, elle dit, mais attendez, de quoi on parle là? Rav. Alors, il y a une discussion entre Rabbi Yaakov Baridi et Rav Shmuel Bar Nachmani. Chadamar et Shetish. Un, il a dit, en vérité, cette femme, c'était une femme mariée. Et un, il a dit que c'était une femme, une jeune fille, qui n'est pas mariée. Ils ont dit, ça va bien d'après celui qui a dit que c'est une femme mariée, c'est normal, c'est une femme mariée. On va pas le permettre à un type pour lui sauver la vie, il a qu'à crever, de toute façon. Déjà, si, de toute façon, s'il va avec une femme mariée, il doit mourir. Alors qu'il a qu'à mourir d'abord, comme ça au moins il ne faut pas. Donc la Torah, elle dit, l'Agmara, elle dit non, c'est sûr que c'est une femme mariée, il n'y a pas de discussion. Et là, regardez ce qui est marqué, les man d'Amar Pnouya, d'après celui qui a dit que c'est une femme qui n'était pas mariée, alors, hein? La vie, ça passe avant tout, non? Comme ça, on pense, nous. La vie, c'est prioritaire. On va faire une petite faute, bon, qui n'est pas vraiment une faute, je veux dire, aujourd'hui, c'est presque une mitzvah. C'est vrai. Bon, franchement, on a beaucoup de chassidim de cette mitzvah-là. Mais ils n'ont pas la tête couverte. Bon, c'est une nouvelle catégorie. Il y a même des centres d'études de cette mitzvah. Comment ils appellent ça? Des bêtes. Des bêtes de nuit. Bêtes de nuit. Oh ouais. Des boîtes de nuit, voilà, des boîtes de nuit. Ah, c'est grave, hein? On peut continuer. Ça. Alors, je n'ai jamais vu un cours de Gemara comme ça, je pense. Hein. Alors, et là, les mandamas. La Gemara demande donc, mais d'après celui qui dit que cette jeune fille, elle était pas mariée. D'accord? Alors, il dit, Maïkoulé, aïe, où est le problème? Il y a le problème. Ah, papa Amar, Mishum, Gam, Mishpacha. Il dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis? Pour pas faire la honte à la famille. Ouais, quand on va la croiser, on va dire, tiens, c'est celle-là, l'infirmière. Ravacha Brede Ravika Amar, il a dit, regardez ce qui est marqué, Kede, Shelo, Iyu, Benot, Israël, Proutzot, Berayot. Il a dit, on va pas laisser les filles d'Israël, Proutzot, d'accord, ça veut dire dévergondées, Berayot dans la nudité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un type, il a une envie comme ça, hop, il va mourir, faut le sauver la vie. Ah ben, appelle Sœur Teresa. Ouais. Il dit non. Vélin Seba, ah, l'Agmara, elle pose une bonne question. Écoutez cette question d'Agmara. Elle dit, mais il a qu'à l'épouser. Oh, comment ça c'est qu'on n'a pas pensé à ça? Vous voyez comment on a l'esprit tordu. Ouais, il a dit, mais il a qu'à l'épouser. Est-ce qu'elle répond à l'Agmara? Nanana, l'homme yad vadarte, ça va pas lui calmer les esprits. Kedir Avitrak, comme il a dit Avitrak, Damar Avitrak, Miyom Shechara Betamigdash, Nitla Tarambia, Venitna Leovra Vira, Shenema, Maim, Genovim, Imtaku. Regardez ce qui est marqué, regardez, c'est grave. Les eaux volées sont douces. Ça veut dire quoi? La femme interdite, elle est plus intéressante que la femme permise. Les eaux volées sont meilleures. Après, c'est marqué. Velechem Starim, le pain qui est caché, Yenaim, ça veut dire il est plus doux. C'est comme ça. Regardez ce qui est marqué dans la Gemara ici. C'est rigolo, mais c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, à partir du moment où quelqu'un est attiré par quelque chose, ça s'est intéressant, je veux dire, de savoir qu'est-ce qui au fond l'attire. Qu'est-ce qui l'attire au fond? Quelqu'un y croit, c'est un corps. Tu crois que c'est un regard. Après, il dit c'est une certaine magie. Là, c'est mystique déjà. Après, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ben, c'est marqué ici. Ce qui est attirant, c'est l'interdit. C'est l'interdit qui attire. Le goût des choses, il est dans l'interdit. Exactement là-dedans. C'est parce qu'il y a une avéra. Mais sans l'avéra, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il a une impulsion profonde qui le pousse à s'intéresser à des choses sur lesquelles il y a des fautes. Lui-même, il ne comprend pas. Combien de fois j'ai vu des gens qui s'étaient gourés d'étages? C'est-à-dire qu'ils avaient pris un mariage, mais était plutôt mixte. Je lui ai dit, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... En quoi elle t'attire? Pas potiche. Il m'a dit, je sais pas, hein, c'est l'amour, c'est la passion. C'est... Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Une potiche. J'ai jamais compris. Elle a rien. Elle n'a rien du tout. Rien. Rien. Juste la verra. Juste la verra. Juste interdit. Explique-le. Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un y prend. Tu vois, dans ce gâteau, il y a de la farine, il y a du beurre, il y a de l'huile, il y a des œufs et il y a du sucre. Il dit, bon, pourquoi je le mange? Je peux pas manger de la farine, c'est dégoûtant. Je peux pas manger du sel, c'est dégoûtant. De l'huile, c'est dégoûtant. Ce qui est bon, c'est le sucre. Imagine le type, il dit, donnez-moi que le sucre. Vous comprenez? C'est pareil ici. Tu vois le gâteau, il a aucun intérêt. Tu vois sa tronche, aucun intérêt. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sucre. C'est comme les gens qui prennent le glacé là sur les éclairs, ils jettent l'éclair. Il y a des gens comme ça. Je dis, mais enfin je comprends pas, c'est pour avaler ça. Il dit, non, je veux pas grossir. Ça veut dire quoi? Le vice sans les conséquences. Ce qui est marqué ici. Il dit, à partir du moment où quelqu'un comprend qu'en vérité, l'origine même du problème, elle est très profonde. Parce qu'on l'a dit, la faute de Adam, elle a fait rentrer à l'intérieur de l'être la notion de l'attirance. Et la notion de l'attirance qui est liée spécifiquement à l'interdit. Donc les choses qui sont cachées, donc les choses qui ne sont pas permises, donc les choses qui sont à moitié dévoilées, donc les choses qui poussent le fantasme, vont devenir les choses qui vont attirer. C'est inscrit dans l'être maintenant, c'est comme ça. Maintenant, à l'homme de comprendre. Et tout va fonctionner autour de ça. Tout le marketing, toute la publicité, toutes les images, tout le comment ils appellent ça? Non, pas la stratégie. C'est comment est-ce qu'on... C'est comme le monde transparent des choses. Je ne fais jamais appel à la chose qui est exprimée ou la chose qui est voyante. Je fais appel au rêve que toi, tu as de la chose. Ouais, par exemple. Alors... Ah maintenant, si on remonte encore plus loin maintenant, parce que maintenant qu'on y est, maintenant on est déjà dans les profondeurs, ça veut dire que cette satisfaction-là, avant d'être une satisfaction, elle est un besoin. Donc voilà que cette personne-là, elle a un désir de conquête. Donc que ce soit une conquête visuelle ou une conquête physique, c'est la même chose. Au départ, c'est simplement un désir qui est exprimé, une envie. Cette envie-là, elle vient de l'intérieur. On a dit qu'elle vient de très loin. Elle prend une certaine connotation qui est liée à l'interdit. Après ce désir-là, il a besoin d'accomplissement. Comme ça. Pourquoi? Ben, c'est facile. Vous vous rappelez tous qu'il y a la neshama. Il y a le nefesh. D'accord? Et il y a l'extériorité, l'extérieur du corps. Maintenant, le nefesh, c'est une espèce de compresseur de désir d'être. C'est comme un compresseur qui, à chaque minute, développe des impulsions de désir. Tac, 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 tac. Maintenant, ce compresseur-là, il n'a aucune connotation. Complètement neutre. C'est de l'énergie pure. Mais cette énergie-là, elle va être canalisée à l'intérieur du nefesh. Le nefesh est divisé en deux. La Gemara, elle dit, il y a une mouche à l'intérieur du cœur. C'est lui, etc. Et lui, quand le courant, il vient de la neshama, il arrive, la lumière, elle arrive, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il met dessus le négatif qui va sortir à l'extérieur. Maintenant, la nature même de cette énergie qui sort de la neshama, et qui est en vérité la volonté d'être, le désir d'être, la vie, tout ça, en soi, elle est infinie. Donc à partir du moment où ce désir infini passe par le nefesh, et qu'on met à l'intérieur une connotation quelconque, par exemple, un fantasme, ça va développer, et ça va véhiculer un fantasme infini. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que l'énergie qui sort de la neshama est là pour véhiculer notre projet personnel. Mais il faut que notre projet personnel soit personnel. Il ne faudrait pas qu'il y ait un intervenant intérieur, on ne dit pas extérieur dans ces cas-là, intérieur, qui mette un petit diapo devant la lumière. Ça s'appelle Yetzirah. C'est pour ça que la nature de ce sentiment-là, elle est incroyable. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit, bon, c'est un détraqué de la ceinture. Mais vraiment détraqué. Hein. Complètement détraqué. Et ben le type, il allait avec des dames
qui avait le sida. Je lui dis, mais t'es cinglé. Il m'a dit non. Il était conscient. Pourquoi? Alors moi, j'ai mis longtemps à comprendre, parce que j'ai dit, mais un type, il va mourir, il est pas fou, non? Il a dit, mais qui t'a dit qu'il veut pas mourir? Qui t'a dit que l'excitation, elle n'est pas dans le danger? Vous comprenez? C'est comme les gens qui font des sports dangereux ou des jeux dangereux. Mais ça les intéresse. Toi, tu es dans ton bureau, tu es là avec ton truc, avec ton ordinateur. Oh, j'ai peur. Mais lui, il prend la voiture et il descend de la montagne à 160 de moyenne. Le ravin, il est là. Hein, ben, le type, il a un taux d'adrénaline de 180. Il est bien. Il comprend pas. Tu es là, tu es avec ton truc. Simulateur de vol. Tu dis, oh. T'as le mal de mer. Et lui, alors, de la même manière que quelqu'un, la proximité avec la mort, ça lui donne un certain goût. D'accord? Maintenant, regardez bien, que vous partiez très loin à l'extérieur ou que vous partiez très loin à l'intérieur, vous retrouvez exactement les mêmes principes. C'est la même chose. Ce goût-là, de la limite, ce goût de la proximité avec la fin, cette sensation-là du danger, ou alors de la culpabilité maximum. Vous savez, la culpabilité maximum et la mort, c'est très proche. Comme les kleptomanes. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'argent, c'est des gens qui ont de l'argent. Mais juste pour avoir la frayeur de se dire « je suis peut-être suivi par un vigile » ou autre, ça les excite. Ils sont prêts à aller en prison pour ça. Ce n'est pas des gens qui volent, c'est des gens qui titillent, oui, leur sens, leur sensibilité, de la culpabilité. Alors, tu peux faire ça avec le vol, tu peux faire ça avec les sports dangereux, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Mais en vérité, c'est quoi? C'est la proximité avec la mort. Parce que la punition, c'est une petite mort. Et la fin, c'est une grande mort. Quand quelqu'un se rapproche de la haute culpabilité ou du haut danger, en vérité, il frise la fin. Il y a une excitation proche de la fin. Alors, que vous le preniez au bout de la matière ou que vous preniez à l'intérieur des choses, c'est là la même chose, c'est le goût de l'interdit. Le goût de l'interdit. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le libre arbitre. Mais pour que tu aies le libre arbitre, il t'a donné, regardez bien, la compréhension intellectuellement profonde de la gravité de l'interdit. Et pour le libre-arbitre, il t'a mis le kiff profond de l'interdit. Et t'es entre les deux. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que dans la Avera, le kiff, il est facile et la conséquence, elle est grave. Dans la mitzvah, le kiff, il est dur à trouver, mais la conséquence, elle est positive. C'est comme dans un couple. Pour arriver à quelque chose dans un couple, il faut des années de travail. Mais la fin, elle est bonne. La paix, la sérénité, la communication, l'harmonie. Ouf! Quel kiff, tu parles, on finit ta phrase, on comprend ce que tu veux, tu te sens bien. Ça existe encore? Il y en a qui vont en rêver au cinéma. Donc, mais à l'extérieur, il faut travailler jour après jour et tout ça. Avec la maîtresse, ça marche tout de suite, toujours. On s'entend très bien, on se comprend très bien. On a flashé, mais du premier coup, on a vu qu'on était fait l'un pour l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que tous les efforts de communication sont compactés par le spécialiste de la communication. Yetzirah. Il a réglé tous les problèmes. C'est vrai, il fait de l'ingénierie à un haut niveau, lui. Toutes les démarches, tous les trucs, il t'arrange tout. Rien que tu fasses la Vera. Tu comprends pas, tu dis, c'est quand même bizarre. Je m'arrange avec personne, je comprends personne, personne ne me comprend. Je suis méchant, je suis lourd, je suis violent, et elle m'adore. Parce que c'est Yetzara qui lui a fait le portrait. Ça, l'amour est aveugle. Essaye de faire la même chose avec les mitzvot. Tu vois comment c'est dur. Va la choupa, vas-y, vas-y. Rentre dans la choupa, d'un seul coup, oh, tu ouvres les yeux comme ça. Tu me dis, ça va pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Alors pourquoi pendant des années t'as pensé qu'on était fait l'un pour l'autre? Parce que Yitzhara, il savait que quand il t'aveugle à toi, il aveugle à l'autre. Tous les soirs, il y a carette. Carette. Le retranchement, la punition la plus grave. Donc pour ça, Yitzhara, il t'aménage ce que tu veux, la plus belle histoire d'amour. Maintenant qu'il t'a donné une bonne dose, ça fait 5-6 ans que tu... T'abuses grave. Alors, ils marinent. Ils arrivent avec leur sacoche de la Averot. Alors, ou pas. Alors,
Et d'un seul coup, il met des yeux, les lunettes. Mais t'es moche. Je parle de qui? Mais toi. Mais t'es impossible, t'es insupportable. Il n'y a plus l'Yetzirara. Il n'y a plus le maquilleur. Il est parti le maquilleur. Tu viens avec tes rides, ta tronche. Quand tu fais des averotes, la première partie, elle est facile. La deuxième est difficile. Quand tu fais des mitzvot, la première partie est difficile. La deuxième est facile. C'est normal. Tout ton mérite, c'est la première partie. Tu veux pas qu'on te donne la première partie aussi, non? Tu veux pas que Dieu il aille à ta place et au lamaba? Fais la première partie. Qui c'est qui arrondit les angles? Quand est-ce qu'il commence? Avant déjà. Comment il a fait? Il a donné le goût de la faute. Le goût de la faute, c'est extraordinaire ça. Et c'est ça que les gens ne retrouveront jamais. Quand tu as fait une bonne teshuva, il faut savoir une chose. Il faut réapprendre, il faut réhabituer les goûts. Hein. Parce que le goût de la faute, tu ne le retrouveras jamais. C'est plus pareil. Oui. C'est plus le même goût. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, mais le gibier, mais si tu avais goûté du gibier, c'est autre chose, le gibier. C'est faisandé, le gibier. La viande faisandée, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu nous vends dans le cachère, fraîche, faisandée. Mais vous savez ce que c'est de la viande faisandée? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est important de savoir. Si vous en mangez, c'est important. Au moins, vous savez comment vous soignez. De la viande faisandée, c'est de la viande pourrie. C'est de la viande pourrie. On la laisse à l'air libre. 2, 3, 4. On enlève un peu la verdure, on met de la sauce et on vous le sert. C'est ça la viande faisandée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez jamais goûté un microbe? Eh ben allez-y. C'est la viande faisandée. Le goût de l'interdit. Mais c'est extraordinaire ça. Attendez, on va faire le calcul maintenant. Ça va très loin. Ça veut dire que quand je suis attiré par quelque chose, et quand je veux quelque chose, et quand je consomme quelque chose, et quand j'apprécie quelque chose, le fait que je l'apprécie, le fait que j'y trouve un goût et le fait qu'il m'attire, c'est l'interdit qu'il y a dedans. C'est de la folie. C'est-à-dire que la même chose permise, elle n'a pas de goût. Donc c'est moi qui contiens le goût. Il est là. Il n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que mon impulsion d'exister, ma neshama, elle m'a lancé une impulsion. Elle m'a dit « soit ». Le Yetzirah, il a pris cette impulsion, il a dit « soit à travers ça, cette faute-là ». Donc toi, tu penses que si on te refuse ça, tu n'existes pas. Donc ça devient vital. Donc tu veux à tout prix exister à travers ça. Mais si tu existes à travers ça, tu meurs un peu. Ça vaut le coup de mourir pour ça. Donc résumé, ça vaut le coup de mourir pour exister. Ça vaut le coup de mourir pour exister. T'as entendu ce que je dis? On dirait un jeu de mots. C'est-à-dire que le rachat, il est certain que si tu l'empêches de faire des avérotes, il est mort. Comme des gens qui te disent, mais la vie n'a pas de goût, n'a plus de goût, la vie n'a plus de goût. Plus d'avérotes, la vie n'a plus de goût. C'est normal. Ils n'ont goûté que l'avéra. Or, quand tu leur enlèves ça, ils n'ont plus de palais. C'est extraordinaire. Est-ce que vous rendez compte, ça? Je vais vous dire pire. Vous vous rappelez du Nefesh HaChaim? Il y en a qui se rappellent? Je vais vous le redonner parce qu'il est vraiment important celui-là. Il dit de Nefesh HaChaim un truc extraordinaire. Et tu vois un homme, au moment où il faute, au moment même de la faute, on lui détermine la part de Guéhinam qu'il va recevoir pour cette faute. La part d'enfer. Au moment même de la faute, on calcule pile la part de Guéhinam qu'il va avoir. Bon. Et il dit le Nefesh HaChaim, et un homme, au moment où il fait la faute, il sent la part de Guéhinam qu'il va avoir. Ah. Il dit, mais seulement, il dit, c'est réduit par le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu vois, le feu du Guéhinam, le feu de l'enfer, il est inclus dans l'impureté. Et il entoure la personne au moment où elle faute. Mais le corps, il fait écran. Alors venez, on va essayer d'imaginer un exemple. Vous prenez une plaque d'amiante de 10 cm d'épaisseur. Hein, bien, comme isolant. Et vous mettez 40 chalumeaux allumés à fond d'un côté de la plaque d'amiante. Et vous mettez un monsieur de l'autre côté. Alors, il fait chaud. Il fait chaud. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a la veste. À la fin, il est en maillot de bain. Il dit, ouf, il sent bien. Et bien, tu vois, cette chaleur-là, il la kiffe. Cette chaleur-là, c'est la partie perceptible du feu du chalumeau. Il dit, le Nefesh HaChaim, un homme, au moment où il faute, on lui envoie exactement la dose d'enfer qui est nécessaire pour cette faute. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vie? On enlève le corps. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la plaque d'amiante. Et qu'est-ce qui se passe? Ah non, vous ne vous rappelez plus de ça. Shawarma.
Comme quoi, je peux refaire une blague tous les deux ans, elle repasse. Est-ce que vous me suivez? Vous allez me dire, mais c'est horrible, c'est dégoûtant. Non, attendez, je vais vous expliquer. C'est marrant les choses. Quand on explique aux gens ce que la Torah elle dit, ça leur fait peur. Mais quand on leur explique en psychologie, ça les rassure. J'ai jamais compris, gros, c'est pareil. Comme tu dis, je vais tirer une balle dans la tête. Tu dis, oh, je dis, non, je vais prendre un morceau de plomb qui va se déplacer à l'intérieur de ton esprit et peut-être de ta chair aussi, dans une distance de 20 cm à peine, mais à une vitesse tellement rapide que tu n'as même pas le temps d'en souffrir. Mais tu dis, pourquoi pas? C'est une question de définition. Vous comprenez ou non? Bon, venez, on va réfléchir à ce qu'il a dit Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il a dit à un homme au moment où il faute, on lui envoie son Geinam. Ah, maintenant, pourquoi il ne ressent pas exactement la dose de Geinam? Parce que le corps, il fait écran. Mais regardez bien ce qu'il dit, c'est grave. Ça fait peur. Il dit, mais au moment même où le type, il fait la faute, il sent quand même une certaine partie du feu du Geinam. Et vous savez comment il appelle ça, le Nefesh HaChaim, le feu du Geinam que la personne ressent malgré l'écran du corps? Il s'appelle le kiff de la Vera. Est-ce que vous me suivez là? C'est le kiff de la Vera. C'est que le type, il est dans une caverne, il fait tout sombre. Il y a un mec qui dit bouge pas, j'allume la lumière. Et il voit une petite flamme, il dit oh, une petite flamme, ça fait beaucoup de lumière. Ce qui se passe, c'est que la flamme, elle est allumée sur une mèche vers la grosse dynamite. Sois loué celui qui a créé la lumière. Je ne fais même pas le bruit parce que je ne veux pas vous. C'est pareil. Il dit le kiff que tu ressens durant la faute, c'est la partie perceptible du feu du Geinam. Pour pas que tu crois que tu n'as rien fait de grave, pour que tu saches que tu as fait quelque chose de grave, on va te faire percevoir un 60e ou un 100e de ce que tu vas recevoir. Et ce feu-là, tu l'as à l'intérieur. C'est pour ça que ça brûle. Est-ce que vous me suivez l'histoire? Ça veut dire que quand tu as l'impulsion de faire une faute, le désir que tu contiens, c'est le feu du Geinam perceptible. Et comme tu l'as contenu sur la faute d'avant, ça va t'attirer pour recommencer parce que tu as envie à nouveau de ressentir cette sensation spéciale qui est contenue dans la faute. Mais cette sensation qui est contenue dans la faute, c'est le Geinam. Vous me suivez ou non? Bon, je vais vous donner l'exemple avec la drogue, vous allez comprendre. Vous donnez de la drogue à quelqu'un. Maintenant, quand vous lui faites une cure de désintoxication, si c'est bien drogué, bon, 2, 3 ans, 4 ans, mais bien. Quand vous le mettez dans un sanatorium, ça lui fait mal. Il crache sa drogue. Vous lui donnez plus de drogue. Il crache la drogue. Mais en vérité, ce mec-là, il a mal de quoi? Il a rien du tout. Puisqu'il prend pas de drogue, il a rien. Qu'est-ce qui lui fait mal? Il a mal de l'accoutumance. Donc, il est en train de cracher quoi? Il est en train de cracher la douleur du désir inassouvi. Le désir inassouvi, c'est une douleur incroyable. Or, l'origine du désir, enfin non, pas l'origine, mais la motricité du désir, le véhicule du désir, c'est la Neshama. Mais la connotation du désir, c'est l'Yetzirah. Puisque cette connotation, elle devient infinie, puisque le véhicule est l'infini, donc toi, tu contiens un désir infini de négatif. Donc, si tu ne peux pas l'assouvir, tu peux devenir cinglé. Parce que puisque la Neshama, en sortant à l'extérieur, elle te donne la possibilité d'exister. Donc si toi, l'orientation de ton droit d'existence, tu l'as mise sur le mal, donc si tu ne te donnes pas le mal, tu as l'impression que tu n'existes pas, et il n'y a pas plus insupportable que de ne pas exister. C'est pour ça que la proximité avec le danger et avec la mort, ça ressemble beaucoup au kiff de la faute, puisque dans les deux cas, c'est un lien avec le droit d'être. Est-ce que vous voyez ce que je dis? On rigole, mais on peut réfléchir. Hein, est-ce que vous comprenez comment ça marche? C'est un truc que les psys, ils sont encore un milliard de kilomètres. Hein. Encore dans la symbolique, de la queue de l'éléphant, chez Freud, croisons un papillon vert, faut-il y voir le regard de la mer. Oh là là. Il y en a qui payent pour ça. C'est marqué clairement dans la Torah. Pourquoi 10 ans de Sorbonne? Voilà. 2 heures de cours. C'est marqué ici. Il dit à partir du moment où quelqu'un, il a le désir d'exister, comme nous tous, mais qu'il n'a pas pris en main son désir d'exister, et que son désir d'exister, il est géré par quelqu'un justement qui veut qu'il n'existe pas, qui s'appelle le Yetzirah, et qui va donner cette direction négative, et qui va l'éduquer à cette direction négative, et que cette personne, elle va penser foncièrement qu'elle ne peut pas exister autrement. Donc maintenant, elle va rentrer dans la culture
du désir. Ce qui est marqué dans la Gemara. La première fois, le Yetzara, il te pousse. La deuxième fois, il ne te pousse pas. Puis c'est un dealer. Il t'a fait goûter à un goût qu'il sait que tu ne pourras pas le trouver ailleurs que dans la faute. Donc il sait que la deuxième fois, c'est toi qui vas aller le chercher. C'est le goût de la faute. Et c'est vrai, je reconnais que le goût de la faute, vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est vrai. Vous ne trouverez pas le vrai goût de la faute ailleurs. Parce que l'excitation de la culpabilité, il n'existe pas dans le bien. Vous comprenez ça? Le malaise du kleptomane, il n'existe pas dans un objet acheté. Le goût de la femme interdite, il n'existe pas chez la femme permise. Puisque c'est la projection du sentiment de transgression que tu contiens. Et ça, c'est toi qui le contiens. Donc toi, tu contiens un certain désir. Ce désir-là, il est négatif. Tu le transmets dans la réalité et tu essayes de l'aborder. À chaque fois que tu ne peux pas l'aborder, tu as l'impression que tu vas mourir. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Il a attrapé un truc au cœur. Il est sûr qu'il va mourir. Il va mourir! Il va mourir. C'est pour ça que, si on revient un peu à notre problème de base, on n'arrive pas à comprendre quelle est la nature même de l'attirance. Tu sais, quelqu'un il dit, bon, quelqu'un il mange quelque chose, bon, quelqu'un il touche quelque chose, bon. Mais quelqu'un il voit quelque chose, ou quelqu'un il pense à quelque chose. Quel plaisir il a? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Vous comprenez ou non? Ils appellent ça le voyeurisme. Oui. Mais c'est quoi? Il a quoi le mec? Il est là. Mais quoi? Il n'y a rien du tout. T'as sorti, t'as rien, non? T'as une image dans la tête. Il ramasse des images. Il a un magnétoscope, là. Il ramasse les derniers films. Et le soir, il regarde ses cassettes. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Tu regardes les images le soir, et la nuit, t'as un accident. C'est marqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il demande les commentateurs, mais quel profit il a de ça? Une fois, il y a un rabbin, il a été pour faire un cours dans un kibboutz. Mais un kibboutz très loin, un kibboutz proche du Guinam, à la porte, ma vache. Et il arrive dans ce kibboutz pour faire un cours. Ah, vraiment, les types, ça veut dire même la kippa, il ne se rappelle plus ce que c'était. Et le responsable du kibboutz, il vient lui dire, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai un problème, on peut pas faire le cours ce soir. Alors, il dit, pourquoi? Écoutez, bah, ce soir, c'est un peu spécial. On peut pas vous faire rentrer dans la salle. On peut pas vous faire faire le cours. C'est un peu spécial. C'est, je veux pas vous gêner, tout ça. On peut pas. Alors, il m'a dit, mais petit, moi, pourquoi? À la fin, le type, il dit, voilà, c'est une salle de cinéma. Et juste avant le cours, bah, les gens, ils ont regardé un film. Pas pour nous, mais pour eux. D'accord? Alors, le rabbin, il a dit, mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les types, ils ne savaient pas comment les attirer à un cours de Torah. Alors, ils ont mis un film ripou. Quand ils sont déjà assis dans la salle, à la fin du film, le temps qu'ils se réveillent, hop, tu mets le rabbin. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts à faire pour que les gens fassent teshuvah? Bon, alors. Alors, le rabbin, il est rentré dans la salle. Il a une parole extraordinaire. Il a dit comme ça. Il a dit bonjour. Il a dit, waouh, shalom, shalom, alaykoum. Ils ont dit, vous êtes des animaux. Vous êtes des malades mentaux. Comme ça, il leur parle. Israélien, il faut casser la glace. Hein. Vous êtes des malades mentaux. Il dit, comment? Où t'as vu, toi, un animal dans le monde qui va se mettre à 80 ou 90 personnes dans une salle, dans le noir, pour regarder, même pas une scène vivante, un truc sur un écran, une image projetée de deux personnes qui font des choses que, bon, que tout le monde fait quand on est marié. Ouais. Et pour les regarder comme ça, et des fois ils viennent en couple. Il a dit, mais vous êtes des animaux. Quand un chien, il est excité, il va voir une chienne. Mais vous, vous venez dans un truc pour vous exciter sur des gens qui en plus ne s'excitent même pas puisqu'ils jouent un rôle. Mais c'est psychiatrique votre histoire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il leur a dit? Mais vous êtes des malades mentaux. Genre, la Torah. Mais regarde ce que. Mais prends une photo de toi, t'es assis dans une salle, dans le noir. Ça veut dire, au lieu de prendre une petite serrure, comme tout le monde, à la porte de la salle de bain. Non, qu'est-ce que tu fais toi? Tu prends une grosse serrure comme ça, 4 mètres sur 4 mètres. Et c'est pas. Genre, si on t'attrape à la porte de la salle de bain, t'as honte. Mais là, on vient à 80, on paye l'entrée, on se met tout ça. On se met là, on est là, 80 voyeurs.
pour des gens qui jouent un rôle. Et il regarde, mais il dit, mais vous êtes des détraqués de la tête. Mais allez dans les champs. Vous me suivez ou non, là? C'est exactement pareil. Il dit, mais le type, il n'a rien du tout. Il n'a rien. Il a croisé un regard. Il a croisé ou là, un bras ou là, pire. Ouais. Et comme ça. Regard fuyant, mais en profondeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il part avec sa petite photo, il est là. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Il cherche quoi? Est-ce que vous me suivez? Il demande au commentateur. Il est bizarre ce Yetzer Hara. Il dit, j'ai envie de manger taref. Il mange taref. Il dit pas, il regarde le steak comme ça, au steak au beurre. Il regarde. Il prend le steak, il mange le steak au beurre. Il est là, il dit, j'ai un steak au beurre. Il prend les écrevisses. D'accord? Il a des écrevisses dans le ventre. Il mâche de l'écrevisse. Bon, ouais. Mais là, il regarde. Il regarde. Et ça y est. Maspiclé. Pire encore, non seulement qu'on ne comprend pas vraiment la nature de l'intérêt que ça peut avoir, mais en plus de ça, la Gemara, elle dit, c'est rapporté dans Rashi, « Marshava yoter kasha mimaase ». La pensée, c'est encore plus dur que l'acte. C'est un truc incroyable. Regardez, on peut oublier un acte. On ne se rappelle pas exactement des circonstances, comment ça s'est passé, avec qui ça s'est passé. Mais une pensée, une image, elle peut rester 15-20 ans. Un truc que tu as croisé comme ça, tac, et ça reste imprimé. Alors là, il croyait notre Sony qu'il avait créé la cassette inusable. C'est pas vrai. Ah bah oui, là, c'est du numérique, là. C'est du laser. Il voit quelque chose, ça ne s'en va plus de la tête. Faire du travail pour enlever une image. Une image, pas 100 000. Une. Elle dit la Gemara cachée. Elle est plus dure la pensée que l'acte. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans l'Yerushalmi, dans Brachot, sur le Passouk aussi, après vos cœurs et après vos yeux. Tania. Amar Rav Levi, il a dit Rav Levi. Liba ve'ena très sirsuré d'Avera. Le cœur et les yeux, ce sont les deux intermédiaires de la Vera, les deux dealers. Dirtiv, Tana, non, Tena Beni Libecha Li. Donne-moi mon fils, c'est marqué dans Michelet, donne-moi mon fils ton cœur, Venaïch et tes yeux, Amara Kadosh Bohu. Iyavtali, si tu m'aimes, Libecha Venecha. Non, ça c'est l'hébreu. Iyavtali, si tu me donnes, en araméen c'est donner. Si tu me donnes ton cœur et tes yeux, anayadar de atli, moi je vais savoir que tu es à moi. Ça veut dire que tu peux aimer Dieu, tu peux croire en Dieu, tu peux pratiquer Dieu, tu peux rechercher Dieu. Chazak ou baruch, chazak. Très bien. Mais si tu ne donnes pas ton cœur et tes yeux à Dieu, au fond, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est les intermédiaires. Vous comprenez? C'est comme si un type dit, maman, j'arrête la drogue, mais je sors ce soir. Avec qui tu sors? Charlie et Maurice. Mais Charlie et Maurice, c'est les dealers. Mais j'arrête, maman, je te promets, j'arrête. Non, c'est vrai. Tu sors avec les dealers, sors avec quelqu'un d'autre. Avec les dealers, c'est sûr qu'ils ont toujours quelque chose sur eux. Oui. Ici, c'est pareil. La plus grande preuve d'attachement qu'on peut avoir et la proximité qu'on peut avoir avec Hachem, et dit le pasouk, tu vas donner ton cœur et tes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur qu'on peut donner, nous, aux choses, elle n'a peut-être rien à voir avec la valeur que la Torah, elle donne et avec la valeur absolue des choses. Maintenant, d'après ce qu'on a dit avant, on peut un petit peu comprendre. Parce que si on considère que la relationnelle qu'on entretient avec la faute, il remonte très très haut à l'intérieur de la sensation et à l'intérieur du désir et à l'intérieur de la volonté. Alors on peut arriver à comprendre que si à la base les choses elles ne sont pas bien claires, alors après la suite automatiquement elle va dériver. Quand HaKadosh Baruch Hu il va dire à quelqu'un donne-moi tes yeux et ton cœur, ça veut dire qu'un homme il sait très bien que s'il ne contrôle pas ses yeux et ne contrôle pas son cœur, au fond il ne contrôle rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que l'impulsion première de la faute, elle démarre au fond du cœur. Maintenant, ça y est, on a compris. Tout démarre du cœur.
Ça veut dire que comment est-ce qu'elle va être gérée la pulsion d'exister? Tout le monde a besoin d'exister, tout le monde. Le problème, c'est comment on va exister? Est-ce qu'on va exister à court terme ou on va exister à long terme? La Torah, elle te dit ça, c'est une chose, on existe à long terme. À long terme, ça veut dire il faut viser dans la Kedusha. À court terme, c'est quoi? La matière. La bouffe, le fric, le sexe, court terme. Plaisir, direct, tout de suite. C'est vrai. À long terme, zéro. La matière égale la mort. L'antimatière égale la vie. Ah, pour arriver à l'antimatière, il faut passer par la matière. Dangereux. Il y a qui s'arrête en route. C'est vrai. Les yeux sont trompeurs, parce qu'ils te montrent la face externe des choses. Mais le cœur, lui, il sait très bien où est la vérité. Ah, pourquoi il se trompe? Parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui lui dit la mauvaise direction. Ah, tu maîtrises pas ton cœur? T'as pas compris que tu contiens etc. Ça va pas être facile. Hein. Mais d'un autre côté, si tu maîtrises pas ton cœur, j'ai aucune preuve de ta fidélité. De la même manière, quelqu'un qui se marie et qui dit « J'espère que tu resteras fidèle », l'autre a dit « Bliné d'air ». Ah, tu dis « Mais quand même, tu pourrais quand même faire un éder ». C'est sûr de jurer. Tu ne peux pas faire des vœux. Il y a quand même des choses dont tu es sûr dans ta vie. Comme quelqu'un, une fois, il m'a dit « On n'est jamais sûr de rien ». Je ne peux pas m'engager. Moi, je ne veux pas. Si je dis, je vais mettre les filines, je vais manger cachère. J'ai tellement peur d'arrêter. Je préfère ne pas commencer. Il m'a dit, je ne veux pas décevoir Dieu. Je lui ai dit, mais il y a bien quelque chose dont tu es sûr. Il m'a dit, non, on ne peut jamais savoir. Est-ce que l'homme, il est aléatoire, l'homme, il est imprévisible. Comment on peut savoir? Comment on peut être sûr? Il m'énerve. Je lui ai dit, mais tel que je te vois maintenant, toi, en face de moi, avec ta tête et tout. Tu pourrais mettre un coup de pied dans la tête de ta mère. Comme ça, tu lui dis, maman, allonge-toi, s'il te plaît. Pourquoi, mon fils? Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Maman, allonge-toi. Arrête de discuter. Pourquoi, comment? Je voudrais simplement te mettre un coup de pied dans la tête. Alors, il m'a dit, faut pas exagérer quand même. Mais tu vois, il y a déjà quelque chose que tu arrives à prendre sur toi. Vous me donnerez la réfouachée. Ouais. Il y a quand même des choses que tu arrives à prendre sur toi. Alors si tu arrives à prendre ça sur toi, tu peux prendre autre chose. Merci. Il m'a dit, ouais, mais ça n'a aucun rapport là, t'exagères, tu me donnes des exemples trop forts. Pourquoi? Parce que c'est ta mère et culturellement, tu sais ce qu'elle t'a apporté. Alors imagine ce que Dieu t'a apporté et tu auras peut-être l'impression que tu lui mets un coup de pied dans la tête. Faut cultiver la sensibilité. Faut cultiver la sensibilité, mon frère. Et tu dis la Torah, réfléchis un petit peu. Réfléchis à ta vie, regarde ce qu'Hachem, tout ce qui t'apporte. Tout ce qui t'apporte depuis que t'es né. Et toi, tu es là. Je l'aimais pas. Là. Vous rendez compte, Hachem, il maîtrise la foudre. Il pourrait séparer tes molécules pour quelques minutes, comme ça, histoire de voir la tête que t'aurais en éparpillé. Il fait rien. Peut-être qu'il va faire tes chouvas, ou là il va se réveiller, ou les gars. Alors, ce qui est marqué ici, il dit à partir du moment où quelqu'un, il va donner son cœur, il va donner ses yeux, ça veut dire quoi? Il va donner le contrôle, il va donner la maîtrise, il va donner la fidélité à son origine, là où ça commence, là où les choses elles dérivent, il va cloisonner, il va dire voilà. Et son désir d'exister, il va l'accomplir. Mais il a simplement compris qu'il faut dépasser l'écorce. Il faut dépasser la matière. Il faut aller au-delà. C'est un peu plus dur. C'est vrai, c'est dur de ressentir le kiff des téphilines. Le kiff de l'étude, c'est vrai. Le kiff de la prière, c'est vrai. Mais il faut passer un cap. Tu passes le cap de la matière. Mais on me fait une proposition facile, regarde. Un truc simple, comme ça. Tu prends un gâteau, tu manges. Regarde, t'es bien, tout de suite, t'es bien. Tu regardes, t'es bien. Si on a compris maintenant... Qu'en vérité, le plaisir, il n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir, il est dans l'autosatisfaction du désir. Le désir, il vient de l'aneshama. L'aneshama, elle demande. Toi, tu lui donnes quelque chose. Mais le Yetzara, il a fait un détournement de fond. Il a fait diriger vers un désir qui est interdit. Et toi, tu as l'impression que tu dois remplir ce désir. Et que quand tu le remplis, ça te donne une satisfaction. Donc, la satisfaction du désir, c'est la définition d'existence. Il faut juste pas se gourer que quand tu as très faim, ne prends pas un bol d'air. Quand tu as très faim et que tu prends un bol d'air,
t'as toujours faim. Or, le mal, el metziut la raï, dit le Maharal de Prague. Le mal n'a pas de réalité. Donc, quand tu te nourris de rien, le rien ne te nourrit pas. Et comme l'appétit est spirituel et que la nourriture est matérielle, tu restes avec une faim éternelle. Comment on appelle un affamé éternel? Un rachat. Un rachat. Maintenant, où elle est la preuve? Où elle est la preuve de ça? La vraie preuve, où elle est? Dans le fait même que dans ce type de plaisir, il n'y a rien. Est-ce que vous me suivez? Dans un regard, il n'y a rien. Il n'a pas gagné quelque chose, il n'a pas profité de quelque chose, il n'a pas mangé quelque chose. Et déjà, il est satisfait. Donc ça prouve que le désir n'a rien à voir avec un objet. Vous savez, les gens, ils parlent de la femme objet. C'est pas la femme objet, c'est l'esprit de l'homme dans la femme objet. C'est pas la femme objet. La femme, c'est une personne. Est-ce que vous me comprenez? La femme, c'est une personne. Mais l'homme, il regarde la face externe des choses. Bien qu'il est attiré vers la face interne, mais il s'arrête à l'extérieur des choses. Ce qui est marqué ici. Il dit, la Torah, elle t'a prouvé qu'en vérité, ce désir-là, il n'a aucune valeur dans le sens où il ne t'apporte que des choses qui n'ont pas d'existence. Et tu t'en auto-satisfais parce que quand tu as créé un faux besoin, alors tu peux créer une fausse solution. Et c'est vrai que tu as une fausse solution. Parce que tu es détraqué. Tu lis des revues, tu vas voir des films. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Tu dis, ouais, mais c'est... tu vois, j'ai besoin et ça me fait plaisir. Exactement pareil que la drogue. Tu te crées un besoin que tu n'avais pas. Hier soir, j'étais à Nice. Quelqu'un m'a demandé. Il m'a dit, le hashish, c'est permis. Un petit jeune, comme ça, gentil. Il m'a dit, non, mais attendez, c'est pas boire, faire du shalom, pour faire des trucs. Non, le sam, pour se sentir bien. Pour... Je dis, mais dis-moi, un mec qui a des jambes, il a le droit de marcher avec des béquilles? Il m'a dit, ouais, il a le droit. Je dis, mais c'est bien de marcher des béquilles? Il m'a dit, non, c'est bien de s'habituer à marcher des béquilles. Il m'a dit, non. Je dis, pourquoi tu penses que tu as besoin de béquilles? La chimie de l'herbe, elle va provoquer chez toi une réaction qui va mettre en relief des capacités que tu contiens. Et ben t'as qu'à déchirer l'enveloppe, toi-même. D'abord, tu vas faire beaucoup d'économies d'argent. Et en plus de ça, tu seras fier de toi. Alors que là, tu vas être fier d'un mégot. Je suis fier de toi. Ouais, t'es vraiment un type bien. Tu vois, t'es vraiment un homme. Après, tu t'étonnes qu'on t'écrase comme un égo. C'est pas possible. T'es autre chose. T'es pas l'excroissance d'un bout de fumée. T'es plus. C'est exactement ce qui est marqué ici. À partir du moment où quelqu'un comprend qu'on t'a donné le désir et que c'est vrai que le désir, il est moteur. C'est vrai que le désir, il te fait avancer. C'est vrai que le désir, il t'oriente. Et c'est vrai que le désir, il correspond exactement à la nature du droit d'être. Mais seulement, il peut être détourné, le désir. Il peut être mal géré. Il peut être entraîné. Et à ce moment-là, c'est fait exactement l'inverse. Parce que le désir, il t'amène à la vie, et ce désir-là, il t'amène à la mort. Exactement les deux extrêmes. Où c'est marqué? Regardez. C'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Bon, c'est trop long. C'est Daf Kaftet Amoud Bet, je vais vous le dire oralement. Une fois, il y a un rave, il a entendu parler d'un autre rave. Celui-là, on a dit, c'est un grand rave. Et un jour, il était assis en train d'étudier, et voilà que le rave en question, il arrive. Alors, il lui dit, tiens, c'est celui-là dont on a parlé. Et il voit que le type, il n'avait pas de foulard sur la tête. Il a regardé comme ça. Oh. Il a tourné la tête, il a dit, je ne veux même pas regarder son visage. Et il faut savoir qu'à l'époque de la Guémara, les Tanaïm, les étudiants, ceux qui étudiaient de l'époque de la Mishnah et tout, les Rabbanim, ils avaient toujours un foulard sur la tête comme ça. Ça leur permettait de se préserver. On appelle ça les œillères un peu. Aujourd'hui, il y a des œillères. Oui, mais il sait ce qu'il regarde. Ils choisissent ce qu'ils voient. Alors qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'œillères, mais ils ne peuvent plus choisir. Parce qu'à partir d'un certain nombre d'images, on ne choisit plus, on est déjà intoxiqué. Donc on commence à chercher ce qu'on a déjà vu. Donc on ne voit plus. On projette un fantasme. D'accord. Donc lui, pour maintenir une certaine kedusha, ils avaient ce foulard. Quand il a vu qu'il n'y avait pas le foulard, il a dit, ah, il n'a pas regardé. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas regarder le visage d'un rachat. Ouais, faut rester enfermé là. Regardez ce qui est marqué. Pourquoi? D'Amar, Ben Esrim Shana Velonassar. S'il a 20 ans, il n'est pas marié.
c'est marqué Kol Yamav Be'avera. Toutes les journées, tous ces jours, Be'avera dans la faute. Il passe toute la journée dans la faute, celui-là. 20 ans pas marié. Ah, c'est pas possible. Regardez bien, la Gemara dit Salkadartar. Est-ce que tu crois vraiment? Attends, on parle des Tanaïm. Le type, il connaît tout le Talmud par cœur. Tu dis, celui-là, il est toute la journée dans la Vera. Alors, on est où, nous? Il dit comme ça. Et l'Aïma, Kol Yamav Be'irur Avera. Il dit la Gemara, si un type qui a 20 ans, il n'est pas marié, toute la journée, il a la pensée d'Avera. Toute la journée, la pensée d'Avera. Toute la journée, la pensée d'Avera. Incroyable. Ça fait peur, hein? Tu dis à 34, ben ça fait 14 ans qu'il... C'est trop, c'est exagéré. Je vais vous dire pourquoi c'est pas exagéré. C'est pas exagéré parce qu'on parle de gens qui ont un très haut niveau et qui ont une très grande exigence. Mais c'est vrai que si on n'a pas de niveau, ben un bœuf, il n'est pas dérangé. Tu te déshabilles devant un bœuf, il... Il broute. Malheureusement, un juif moyen, ou un bœuf évolué, comme vous voulez, et la Neshama, et la Neshama, elle ne s'occupe pas que tu es né dans une famille religieuse, ou que tu as été au Talmud Torah, ou que tu as fait une école juive. La Neshama, elle a soif. Elle dit, j'ai faim. Et toi, à l'intérieur, ça tape. Qu'est-ce que je fais pour assouvir cette soif? Alors, il y a Yed Saratov, il dit, bon, je te propose un programme à long terme, 10 ans d'études, 10 ans de travail, 20 ans de travail sur toi. Après, il y a l'autre, le petit malin, il dit,
les pétons, qu'est-ce que ça fait? Le truc en kit, là, ça vient de Taïwan, regarde, ça s'appelle Avera. Avera. Super agile.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qui c'est qui peut lutter? C'est marqué ici. Il dit, la clé de la Kedusha, elle est là-dedans. Et la clé de la Touma, pareil. Bah, c'est allé, il voyait des anges. Il voyait les anges avec ses yeux. Oui, il y a un rabbi, il a demandé, mais comment tu as atteint un tel niveau? Il a dit, ça fait 52 ans que je n'ai pas vu une femme. Alors nous, on dit, mais c'est pas possible. Mais moi, ma famille, ils ont été, je ne sais pas, salés, des femmes et des trucs. Ils ont été. Il a dit, non, il n'a pas regardé une femme. C'est le regard. Le regard, non. Il n'a pas. 52 ans. Alors regardez bien une chose. Quand toi, ton regard, il dépasse l'extérieur des choses, eh bien, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'intérieur des choses. Si quelqu'un, pendant des années, il s'est préservé du court terme, il est à long terme. Il s'est préservé du superficiel. Il s'est préservé de la matière. Il est dans l'antimatière. Dans l'antimatière! Est-ce que vous comprenez ça? Des rabbanim, tu les amènes, ils te racontent ta vie. Ni temps, ni espace, ni matière, rien. Rien ne les arrête. Parce qu'ils sont habitués à pas regarder l'extérieur des choses. Ils voient que l'intérieur des choses. Ils connaissent pas autre chose. Tu viens de chez toi, tu dis, je suis malade. Il dit, mais non, t'es en bonne santé. Lui, il voit le futur, toi, tu regardes le présent. Il comprend pas ce que tu veux. Au contraire, tu dis, oh, c'est un mec super. Il dit, non, c'est pas un garçon pour toi. Laisse tomber, c'est pas un garçon pour toi. Tu comprends rien. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est prophète. Il voit pas le présent, lui. Il voit l'avenir. Parce que le présent, c'est l'écran qui cache le futur. Mais lui, il fonctionne pas par mode d'écran. Il n'y a pas d'écran. Il voit derrière l'écran. Parce qu'il n'a pas de superficiel. Pourquoi? La Kedusha, c'est la distance avec la matière. La matière, c'est la face externe des choses. Donc la Kedusha, c'est la distance avec la face externe des choses. La Kedusha, c'est la distance. Qu'est-ce que c'est la proximité? C'est le regard. Parce que le regard, c'est la face externe qui apparaît au regard. Et le cœur, c'est lui qui oriente vers la face externe. Si tu ne l'as pas éduqué, à chercher la face interne. Donc on a compris toute l'histoire maintenant. La Torah, elle a demandé... Soyez saints, c'est marqué dans la paracha, juste après. Les ma'an tiskiru vasitem et kol mitzvotai veitem kedoshim lelokechem. Qu'est-ce qu'ils veulent pas souk maintenant? Qu'est-ce qu'ils parlent de la sainteté? 4 mots après, vous comptez, 4 mots. Les tzitzit, la kedusha. Tzitzit kedusha. Pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu me donnes ton cœur et tes yeux, je sais que tu es avec moi. Si tu me donnes pas tes yeux et ton cœur, je sais pas ce que tu penses, je sais pas ce que tu veux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est très simple! Vous êtes fiancé avec quelqu'un. Oui? Vous êtes fiancé. La veille, il vous a donné la bague. Et à chaque coin de rue, il regarde. Il dit, attends, on est fiancé. Il dit, bon, on peut apprécier la beauté, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Prends ta bague, casse-toi. Comment les,
aujourd'hui, la génération de l'ouverture, de la libération, des manifestations du samedi, d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, on est encore jaloux, mais c'est petit, c'est bas. Ouais, moi, ça se conjugue au pluriel. Ah, non. Et moi, je prends la bague, mais toi, tu gardes tes yeux. Expliquez-moi comment celle-là. Aucune religion, rien du tout. Mais elle dit, ah non, tu regardes personne d'autre. Tu me regardes à moi, c'est tout. Est-ce que vous me suivez? Comment elle a fait? Elle dit, la Torah, c'est du bidon. Et elle dit à son fiancé, je dis pas Hatan, parce qu'il y a des mots quand même qu'il faut pas dire. Ouais. Elle lui dit, attention, tu regardes quelqu'un d'autre. Mais pourquoi que ça peut faire? Regarde, elle est très belle. Regarde, c'est là comment elle est belle. Regarde, comment elle est canon. Attends, mais on est tous les deux, c'est clair l'histoire. Exactement pareil. Hachem, il dit, t'es avec moi ou t'es avec quelqu'un d'autre? T'es avec moi ou t'es avec le Yitzhara? T'es avec moi ou avec Avodah Zara? Avec qui t'es? Oh, c'est facile. Si tu donnes ton cœur et tu donnes tes yeux à Hachem, t'es avec lui. Sinon, t'es ailleurs. C'est ce qui est marqué. Vous avez compris maintenant? Alors si c'est ça, ça veut dire que nous, on a un très très grand travail à faire pour ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué comment la société elle évolue, comment les choses elles se mettent en place. On voit que les épreuves, elles changent. Par exemple, en 1900 et quelques, quelqu'un qui voulait voir un truc dégueulasse, c'était pas évident. C'est vrai, non? Les femmes, elles étaient habillées comme ça. Ils avaient même la tête couverte. Les femmes goyes, elles avaient la tête couverte. La plage, ils étaient couverts comme ça, pas vers 1920, comme ça, ils ont commencé. Mais avant, c'était impensable. Donc, ça veut dire qu'en 1900, c'était plus dur d'avoir des regards bizarres. Ils pouvaient se débrouiller, mais aujourd'hui, au contraire. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir un regard propre. C'est très, très dur. Dans Paris, encore plus. Tu peux pas. Oh, tu regardes par terre. Comment tu fais? Et je connais des gens, ils enlèvent leurs lunettes de leur œil. Ils enlèvent leurs lunettes. Il y a des gens, ils achètent des jumelles. Deux extrêmes. Ce qui est marqué ici. Il dit, mais non, venez, on va réfléchir un petit peu. Si aujourd'hui l'épreuve elle est tellement grande, donc si Hachem il nous a donné des exercices qui sont sur ce programme là, c'est que ce programme là il nous concerne. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'on va jamais mettre quelqu'un à l'épreuve si on sait que ça ne le concerne pas. Donc les types en 1900, ça ne les concernait pas. Donc on les mettait à l'épreuve sur autre chose. Or aujourd'hui, nous, ça nous concerne. Pourquoi ça nous concerne? Parce que le regard, c'est la proximité avec le superficiel. Et nous, notre monde, c'est un monde de Hitsuniyut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le marketing, c'est la vente, c'est la face externe des choses. C'est la couverture, c'est la vitrine. Aujourd'hui, on fonctionne qu'à la vitrine. Oui, très rare de trouver quelqu'un de profond, quelqu'un de riche, quelqu'un d'intense, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier, c'est dur. Mais quelqu'un de sophistiqué extérieur, très facile. Plein la rue. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est notre génération. Donc puisque nous, on a une génération du superficiel, donc automatiquement, on a une épreuve du superficiel. On a une épreuve de l'extérieur. Où elle est l'épreuve? Qu'il faut sublimer l'extérieur pour aller chercher l'intérieur. Et c'est vrai que c'est difficile. Qui c'est qui peut pas dire que c'est pas difficile aujourd'hui? C'est la folie. Et encore que nous, on a grandi là-dedans. On a vu ça depuis qu'on est petit, on voit. Oui, quelqu'un qui n'a jamais vu, il est troublé. Il y a un très grand rav. Moi, je vous dis quelque chose, mais je vous préviens d'avance, ce n'est pas notre niveau. Mais il faut le savoir. Il s'appelle Rav Yecheskel Levinstein. Il a toujours vécu en Israël, pas sorti de la yeshiva. Un jour, quelqu'un lui a dit, il faut absolument que tu ailles à New York parce que c'est important que tu ailles à New York et tout ça. Pour la yeshiva, je sais pas quoi. Il a pris l'avion. Et il est en train d'étudier. Ça, c'est quelqu'un qui étudiait, tu l'as jamais vu lever la tête du livre. Hein. Toute la journée, 20 heures par jour. Et après, le soir, c'était ça sa vie. Et les gens, ils lui avaient dit, tu sais, New York, c'est extraordinaire. Tu n'es jamais sorti de Mnebrak. En New York... Tu vois, 144 étages au-dessus de ton bâtiment. Il a dit, quand il était dans l'avion, il était en train d'étudier,
Et le pilote, il a dit, maintenant, nous sommes au-dessus de New York, vous pouvez voir sur la gauche New York. Il a tourné la tête. Il a regardé comme ça. Après, il s'est remis dans son étude. Il a dit, ce qu'il a tourné la tête, ça lui a coûté 20 ans de service divin pour lui. Vous comprenez ça? 20 ans. Attends, qu'est-ce qu'il a vu de New York à 4000 mètres d'altitude? Nous, on dit, mais je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on est contaminé. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on est contaminé. C'est pour ça qu'on prend Baba Salé pour des histoires de fous et qu'on prend le Khatam Sofer pour des trucs de fous. On ne comprend pas. Parce qu'on est contaminé. Alors maintenant, étant donné la difficulté de l'épreuve, c'est sûr que Hachem, il ne va pas nous demander d'être Baba Salé demain. Il va nous dire, de la même manière que Rabbi Yechezkel Weinstein, lui, il ne devait pas tourner la tête dans l'avion par rapport à ses 20 heures d'études journalières. Nous, il va falloir qu'on fasse attention où on met nos yeux. Il faut être racham. Or, comme tu sais maintenant que Alef Romed Ve'Einaim Ro'ot, parce qu'il n'y a pas de contradiction, on l'a dit tout à l'heure, comment ça se fait que Rashi il dit d'abord il y a les yeux et après il y a le cœur. Et l'Agmara et le Midrash, ils disent d'abord il y a le cœur, après il y a les yeux. En vérité, il n'y a pas de contradiction. Parce que Rashi il parle de la réalité des choses. La réalité des choses, d'abord tu vois, après tu penses. Mais l'absolu des choses, d'abord tu penses, après tu vois. D'abord tu as envie, après tu vois. Ouais, peut-être tu ne vois que ce que tu as envie de voir. Parce que la part du fantasme, elle est beaucoup plus grande que la part de la réalité. Jusqu'à quel point est-ce que le cœur, il participe à l'image? On a bien expliqué tout ça. Donc si on a compris maintenant, on va comprendre aussi que notre épreuve aussi, elle va dans le même sens. Et qu'il n'y a aucun intérêt à croire que quelqu'un, il va pouvoir se rassasier dans cet esprit-là. Parce qu'elle dit la Gemara dans ce cas d'Afnounbet, Ever, Katan, Miesh, Be'adam, il y a un petit membre, l'homme, il a un petit membre. Parmi les 248 membres, il en a un petit. Yesh, Be'adam, Masbio, Ra'av. Pour le rassasier, il faut l'affamer. Mar, Ivo, ça va. Oui. Et au contraire, qu'est-ce que j'ai dit moi? Oui. Pour l'affamer, il faut le rassasier. Le Yitzhara sexuel, plus on lui donne à manger, plus il a faim. C'est comme ça. Moins on lui donne, moins il a faim. Alors, pour ne pas lui donner, premièrement, tu ne dois pas réorganiser ta banque d'images tout le temps. Alors, ferme les yeux. Deuxièmement, tu ne dois pas fabriquer des scénarios à partir des banques d'images que tu as fait avec ton cœur. Troisièmement, tu dois regarder des choses qui ont la kedusha dedans. Il faut se nettoyer la tête. Si tu veux avoir une ouverture d'esprit, si tu veux avoir accès à la sainteté, si tu veux avoir des enfants qui ont des idées propres, il faut regarder du bon côté. Les gens ne comprennent pas. Or, nous, la grande chance qu'on a, c'est que, étant donné que l'épreuve est grande, donc ça prouve qu'on nous demande peu. Est-ce que vous me suivez? Peut-être qu'aujourd'hui, un homme qui voit un truc dégoûtant, il tourne la tête, il a la même valeur qu'un type à l'époque de la Gemara, qu'il y avait une femme qui lui sautait dessus et il s'en allait en courant. Peut-être que c'est la même valeur. Parce qu'on a changé de niveau. Or, l'épreuve, elle est toujours proportionnelle au niveau. Et on ne va pas te demander plus que ça. C'est ce qui est marqué ici. Ve'item kedushim. La kedusha, c'est un résultat. La Torah, elle te dit, fais attention à tes yeux. Fais attention à ton cœur. Et tu vas rentrer dans la kedusha. Maintenant, il faut savoir que la kedusha, c'est la distance avec la matière. C'est vrai, c'est très éthéré. Mais c'est aussi la distance que tu as avec le Yetzer. C'est aussi la proximité que tu as avec le futur, avec l'avenir. Il faut savoir une chose. Le regard qu'on a sur les choses, ça prédétermine la femme qu'on épouse. Ça prédétermine la mère des enfants. Ça prédétermine l'esprit des enfants. Ça prédétermine l'esprit qu'il y a dans la maison. Ça prédétermine l'esprit qu'il y aura dans l'école de mes enfants. Ça prédétermine les gens que vont épouser mes enfants. Il faut bien calculer l'histoire. Oui, les gens, ils croient, ils voient une image, l'histoire elle est terminée, l'histoire elle commence, mon frère. Parce que maintenant, on a compris, il y a deux mondes. Il y a le monde superficiel et le monde profond. Alors, t'es où? Si t'es dans le superficiel, t'es dans un système. Alors, dans le superficiel, il y a des gens superficiels, des systèmes superficiels, des enfants superficiels, des écoles superficielles. Il y a tout d'un côté. Dans le profond, il y a tout l'inverse. Mais il faut dessiner. Alors, il faut savoir, l'entrée du bâtiment, c'est les yeux. Les yeux, c'est l'entrée du bâtiment. Alors, faut pas croire, genre, je regarde, mais je fais rien de grave. C'est pas vrai, mon frère. C'est pas vrai, t'es dedans déjà. La Torah, elle t'a pas demandé plus. Peut-être même pire encore. Peut-être que la Torah, elle va t'exiger le kiff. Elle va pas t'exiger l'acte. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que la Torah, elle va t'exiger la sensation. Peut-être que la Torah, elle va t'exiger le désir. Pas l'acte. L'acte, c'est très extérieur. Toi, tu es dans un véhicule. Le véhicule s'appelle le corps. C'est comme si ta voiture, elle affronte un éléphant. Mais toi, t'es pas ta voiture. Est-ce que vous me suivez? Le corps, c'est seulement un transmetteur. Peut-être le corps n'a pas de valeur. La seule chose qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. C'est pour ça que c'est marqué Verachamana, Libabare. Là, ce que Hachem demande, c'est le cœur. On ne comprend pas. Et c'est ce qu'il faut préserver. C'est ce qu'il faut construire. Oh, il y a deux tuyaux qui mènent au cœur. Les deux yeux. Et ils vont droit au cœur. Alors fais attention. Tu dis, mais je ne suis pas un kadosh. Je ne suis pas un baba salé. Essaye d'éviter ce que tu peux éviter. Tu dis, mais au présent, j'arrive pas. Pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Comment tu la vois? Comment tu la vois, la mère de tes gosses? Comment tu la vois? Un grand décolleté qui rejoint le bas de la jupe? Comment tu le vois? Mais comment tu la vois? Mais réfléchis dans ta tête, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, une femme ou un steak? Décide! Enfin, comment tu parles de la mère de mes enfants? C'est toi qui décides, tu décides, mon frère, tu décides. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'intériorité ou le superficiel? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'avenir ou le présent? Tu veux consommer sommairement ou tu veux investir à long terme? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi de décider. Le choix, il est fait là. Voilà, tous les jours, tu fais ton choix. Tu remplis ta fiche. Toi-même. Parce que tu ne fais pas attention à ce que tu regardes. Ah, ce qui est marqué là. Et c'est vrai que c'est difficile. Je reconnais. On ne peut pas mentir aujourd'hui. On ne peut pas s'aveugler. Il faudrait dire. Ouais. Le monde, il est difficile. L'épreuve est difficile. Mais ce n'est pas grave. Sachez ce qui est marqué. Vite kadashtem, vite kudushim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Nous, ce qu'on fait, on lutte. À Jourou, il envoie la kedusha. Il faut juste être assez patient pour comprendre que le résultat, il ne vient pas demain. Il y a des résultats à court terme, des résultats à long terme. Tu fais des petits efforts, toi. Aujourd'hui, tu fais un petit effort. Tu dis, tiens, il y a une scène, je ne la regarde pas. Il y a un truc, je ne regarde pas. Des petits efforts. À Jourou, il va t'envoyer des petits cadeaux. Petits cadeaux. Il va t'envoyer un rave, il va t'envoyer un ami, il va t'envoyer l'ambiance, il va t'envoyer le moral, il va t'envoyer la pêche. Il va t'envoyer des solutions. Toi, parce que tu sais sanctifier. Le contraire, tu t'enfonces, il va t'envoyer aussi, mais l'inverse. Voilà.